DW, l'arbre à palabre.
Bonjour. La région de l'Afrique de l'Ouest est troublée ces dernières semaines par l'insécurité liée au terrorisme. Officiellement, pour la première fois ce mois de mai, il y a eu enlèvement de touristes dans le nord du Bénin. Officiellement aussi, pour la première fois, en avril, des djihadistes ont été identifiés et interpellés sur le sol du Togo. Les djihadistes seraient-ils en train d'élargir leur champ d'opération aux pays côtiers de la région ? L'avertissement avait déjà été lancé après l'attaque de mars 2016 sur la plage de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. La menace est-elle réelle ? Et quel impact sur les projets de développement dans cette zone où les États subissent apparemment l'agenda des djihadistes? Un agenda pour le moins flou quand on considère encore les récentes attaques contre des chrétiens au Burkina Faso. Pour débattre avec nous, trois invités au téléphone. Mikaïlou Sidibé, expert infrastructure du G5 Sahel. C'est vous qui assurez, du moins au moment où nous enregistrons cette émission, l'intérim de Mamane Sidikou, le secrétaire permanent du G5 Sahel. Monsieur Mikaïlou Sidibé, bonjour.
Bonjour.
Ibrahim Yacouba, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Niger. Vos centres d'intérêt sont la sécurité, le développement et la démocratie. Monsieur Yacouba, bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Merci à vous aussi. Et nous sommes également en ligne avec Oswald Padenou, enseignant-chercheur en sciences politiques. Vous êtes chargé de programme gouvernance et sécurité en Afrique subsaharienne pour la Fondation allemande Konrad Adenauer. Monsieur Padenou, bonjour.
Bonjour, Fréjus Kenom.
Au micro, donc Fréjus Kenom, vous venez de l'entendre. Merci à tous nos invités et à tous nos auditeurs de nous rejoindre pour cette émission.
DW.
Ma première question vous est adressée, Monsieur Ibrahim Yacouba, ancien ministre des Affaires étrangères du Niger. Avec la première action terroriste dans le nord du Bénin, les attaques dans le nord du Burkina Faso et les inquiétudes qui gagnent la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, la menace terroriste en Afrique de l'Ouest est-elle maintenant réelle ?
Non seulement elle est réelle, je pense qu'elle était réelle. Depuis au moins 6 ans, elle était réelle. Ce qu'il faut peut-être dire maintenant, on constate qu'elle s'est amplifiée. Pour ce qui concerne la zone du Bénin, la situation du parc du W entre les trois pays dans le Niger, il était connu depuis au moins un an ou un an et demi, en tout cas selon quelques renseignements qu'il avait, que les terroristes allaient non seulement se déployer pour opérer des actes terroristes, mais qu'on craignait qu'ils n'utilisaient ces zones-là comme des sanctuaires ou des zones de repli tant que cela était possible pour commettre leurs forces. Donc il faut maintenant parler d'une amplification et de la situation sécuritaire, d'une dégradation, puisque les groupes armés sont devenus plus nombreux, plus forts et donc plus offensifs sur un espace plus grand.
Oswald Padenou, je rappelle que vous êtes chargé de programme gouvernance et sécurité Afrique subsaharienne pour la Fondation Konrad Adenauer. Est-ce que vous constatez vous aussi que ces pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest deviennent un sanctuaire pour les groupes djihadistes ?
Eh bien, merci beaucoup, justement, pour l'invitation. Alors, je dirais simplement, comme ministre, qu'il ne faut pas, dans un premier temps, nier la réalité. Il y a une réalité qui est là, il y a une évidence. Donc, cette réalité n'est pas à nier. De toute façon, les attaques qu'on a connues, ce que vous avez évoqué, l'arrestation donc, des djihadistes identifiés dans le nord du Togo, mais aussi donc, l'enlèvement qui a eu lieu dans le nord du Bénin, je pense que prouve à suffisance qu'on est effectivement dans une réalité, dans une. Voilà, la mise en œuvre un peu des plans des organisations djihadistes en Afrique de l'Ouest. Donc, autant je trouve qu'il ne faut pas nier cette réalité, autant je trouve qu'il ne faut pas non plus aller dans une sorte de surenchère sur cette question-là. Je pense que ce qui est important, ce sont les mesures pour apporter une réponse, pour essayer de rester le plus éveillé possible, en tout cas au niveau de nos forces armées, rester le plus éveillé possible pour faire face à cette menace.
Vous pensez, Oswald Padenou, qu'il n'y a pas encore péril ?
Non, à l'état de mon point de vue, il n'y a pas péril. Cependant, je pense qu'il faut rester vraiment vigilant. Il y a une menace, clairement. Il y a aujourd'hui le Burkina qui est un verrou qui est en train de sauter. Donc ça, ce sont des réalités. Mais en même temps, je pense que le coût de travail qui se fait par nos forces armées, il est important de le relever. Il y a une coopération aujourd'hui qui existe entre les États et qui permet d'anticiper un certain nombre de menaces. Mais l'enjeu le plus important, vraiment, c'est l'enjeu de l'équipement. Avec quels moyens les forces armées font face à ces différentes menaces-là. Je pense que cette question est primordiale.
Oui, concernant le G5 Sahel, les échéances ne cessent d'être reportées. Le G5 Sahel confronté à des problèmes de financement qui peinent à démarrer. Et parlant de G5 Sahel, nous sommes contents d'avoir la présence de Mikaïlou Sidibé. Vous êtes expert infrastructure du G5 Sahel. Peut-être que vous observez la situation ou les développements actuels sous un autre angle, non, Monsieur Mikaïlou Sidibé?
Je vous remercie également pour l'invitation. Effectivement, la menace, elle est là, elle est réelle. Il ne faut pas la minimiser. Mais pour autant, comme disait Monsieur le professeur tout à l'heure, il ne faut pas minimiser également les actions qui sont développées par les États qui sont concernés, mais également par les organisations sous-régionales comme le G5 Sahel. On n'a pas quand même des zones qui sont tenues, qui sont occupées par ces groupes-là. Effectivement, ils développent des stratégies d'évitement des forces de défense. Ils évitent d'affronter en fait les forces qui interviennent. Donc, ça fait qu'ils arrivent à causer beaucoup plus de dégâts. Mais nous insistons sur le fait qu'il faut que les digues que constituent le Burkina Faso, le centre, le sud Mali, puissent être soutenues pour éviter le glissement, on va dire, de ces groupes-là qui tentent de descendre véritablement vers le sud.
Le verrou burkinabé est en train de sauter, comme le soulignait Oswald Padonou tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça aussi?
Non, il ne faut pas aller trop vite en besoin. En fait, il y a un harcèlement, mais il ne faut pas oublier également que récemment, au niveau du Burkina, il y avait une opération très solide qui avait été menée dans la partie est, qui a permis quand même de déloger pas mal de groupes. Et c'est ce qui avait permis de lancer des alertes, on va dire, au niveau des pays du sud, là, sur la présence de ces groupes dans ces zones-là. Mmh. Et au niveau également de la force conjointe du G5 Sahel, elle intervient dans les frontières et ça permet quand même de maintenir ces verrous. Il n'est pas en train de sauter et les actions sont vraiment en train d'être mises en œuvre pour pouvoir contenir la menace à ce niveau-là.
Mmh. Alors, Ibrahim Yacouba, vous avez entendu sans doute, Mikaïlou Sidibé indique que les groupes djihadistes évitent d'affronter les armées. Mais on dirait quand même que les armées ou les États de la région sont plutôt dans une position de défensive, non? Quel est votre point de vue? Les djihadistes ont l'air d'avoir l'initiative, c'est eux qui attaquent et les armées viennent après.
Oui, je pense qu'il y a un fait. C'est très souvent les groupes djihadistes qui attaquent, par quel que soit le moyen, que ce soit une attaque frontale contre une position de nos armées ou que ce soit par les moyens mobiles dérobés lorsqu'ils attaquent certaines positions à moto et ils disparaissent. Mais nous n'avons pas encore un renversement de situation où les djihadistes seraient en train de se défendre ou de se cacher véritablement. Je pense qu'il y a une dégradation très nette de la situation sécuritaire et en même temps, il faut comprendre que nous avons des éléments de forces armées étrangères, nous avons l'AMINUSMA avec beaucoup d'hommes, beaucoup de ressources. Et comme je l'ai dit, c'est ça un peu le paradoxe. Même quand la situation s'est dégradée, c'est plus grave la disparition ou le recul de la présence des États dans les régions concernées. L'État est en train de reculer et ce sont les groupes djihadistes, même s'ils n'ont pas de position avec des drapeaux bien fixés sur des territoires qu'ils contrôlent, c'est eux en réalité qui contrôlent le mouvement des hommes, le mouvement des marchandises, qui font des impositions et qui contrôlent même la situation sécuritaire. Vous savez, vu ce qui est en train de se passer par la destruction ou les incendies des écoles, les assassinats des chefs traditionnels, les assassinats de tous ceux qui représentent les autorités fixées à un moment sur une partie du territoire. Moi, mon point de vue, c'est qu'effectivement, des organisations peuvent être en train de travailler et c'est réel, mais le travail que nous faisons n'est pas à la mesure de la grande difficulté que nous avons sur le plan sécuritaire au niveau du Sahel. Mmh. Et remarquez aussi le changement, même, je vais dire, je ne sais pas si c'est idéologique ou un changement stratégique, c'est que maintenant, il y a des attaques très claires contre des églises au Burkina où on tue les pasteurs, les pratiquants. Il y a aujourd'hui donc non seulement une situation sécuritaire difficile, mais vous avez un développement politique ou religieux encore plus grave, tendant encore à créer des difficultés entre les communautés. Il faut que nous ayons les moyens humains, politiques, d'agir et vraiment d'agir efficacement sur le plan développement et sécurité rapidement.
Oui, développement, le mot est lâché, mais on va y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, Oswald Padonou, on constate qu'effectivement, il y a une forte présence militaire. Hein. Il y a les armées étrangères, il y a les armées de la région aussi, des États de la région. Et pourtant, les djihadistes continuent leurs opérations et ils sont très virulents. Est-ce que cela est le résultat de ce que le tout sécuritaire n'est pas forcément ce qu'il faut?
Alors, sur la question des chiffres, effectivement, avec la MINUSMA qui est maintenant aujourd'hui la plus importante opération des Nations Unies, et toutes les forces armées donc, de la région, le Barkhane et tous ceux qui participent à l'effort de rétablissement de la paix dans le Sahel, on est quand même théoriquement dans une proportion, dans des limites qui peuvent permettre au moins de contenir la menace. Mais gardons à l'esprit que quand on regarde par exemple le mandat de la MINUSMA, quand on regarde le format donc, d'une opération de maintien de la paix, ça ne me paraît pas être en mesure de répondre aux défis sécuritaires qui sont chez le Sahel aujourd'hui.
Il est vrai aussi que la mission de l'ONU, ce n'est pas tellement une mission de combat d'une manière générale. L'ONU est-elle là pour combattre, pour faire la guerre?
Ben justement, c'est tout le problème. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose au Mali, c'est un problème de terrorisme. C'est un problème de groupes armés, de groupes criminels qui s'en prennent à l'État, qui s'en prennent à tous ceux qui ne semblent pas, disons, s'aligner sur leur vision de la société. Et donc, ce n'est pas une opération de maintien de la paix comme on l'a connu par le passé, où il s'agit en réalité de s'interposer entre deux belligérants. Mais au-delà de la question des chiffres, au-delà de la question même du mandat, le problème qui se pose, à mon avis, le plus grand danger que nous courons tous, enfin que tous les acteurs courent aujourd'hui, c'est le danger de l'accommodation aux fragilités du Sahel. Je pense que c'est important qu'on sorte un peu de cette... j'ai l'impression qu'on est un peu dans une insécurité structurelle qui est... Il y a comme une économie de l'insécurité qui est seule et florissante. Parce qu'au fond, j'ai la conviction qu'on n'a pas encore tout essayé dans le Sahel. Sur la durée, ce qu'il faut, c'est des commissariats de police dans toutes les localités. C'est des brigades de gendarmerie, c'est des écoles, c'est des centres de santé. Voilà, il faut que l'État soit présent. Et je pense que sur ça, tous les partenaires doivent vraiment de bonne foi, avec sincérité, accompagner les États, faire en sorte que la FEDEAO prenne davantage de responsabilités, prenne le lead, que l'Union africaine se préoccupe davantage de cette question du Sahel là, parce que je pense qu'on est à un niveau de fragilité, donc de capacité de l'État à répondre à cette situation-là, tel qu'il est important vraiment d'améliorer les mécanismes de coopération et de solidarité. C'est important, de solidarité, pour trouver des réponses appropriées.
Alors, M. Mikaïlou Sidibé, quelle est la stratégie du G5 Sahel? Est-ce que vous ne pensez pas que le G5 Sahel gagnerait à se concentrer beaucoup plus sur les projets de développement pour lutter contre la pauvreté extrême et soustraire aux entrepreneurs de violence cet argument de faiblesse de l'État, d'absence de l'État, des djihadistes qui se portent en alternative pratiquement à l'État?
Absolument, vous avez raison. Mais juste avant peut-être de répondre à cette question, je voulais juste revenir sur le point que j'avais évoqué, notamment la stratégie d'évitement, on va dire, des groupes terroristes. Effectivement, en fait, il y a des postes de police, des postes de gendarmerie qui sont attaqués. Mais lorsque je parlais de stratégie d'évitement, en fait, il y a des actions conjointes qui sont menées par des forces armées des pays. Et lorsque ces actions sont menées, en fait, ces forces ne rencontrent pas, on va dire, ces groupes armés terroristes. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Mais effectivement, des postes de gendarmerie, de police isolés, effectivement, font l'objet d'attaques. Maintenant, par rapport à la question, effectivement, au niveau du G5, nous avons développé un programme d'investissement prioritaire d'un montant global de plus de 2 milliards d'euros et qui a fait l'objet d'une conférence de donateurs. On va dire, toujours c'est la conférence de donateurs, mais il fallait quand même passer par cette conférence pour pouvoir rassembler tous les partenaires qui nous accompagnent. La conférence a eu lieu au mois de décembre 2018, qui nous a permis d'avoir des annonces de financement. Et nous sommes en train de mobiliser ces annonces pour pouvoir passer à la mise en œuvre. Donc, dans ce volet, nous avons des projets dans le domaine des transports. Parce que vous savez, les zones où interviennent justement ces groupes-là, ce sont des zones qui sont enclavées. Même les interventions des forces de défense et de sécurité, des armées, sont rendues vraiment difficiles. Donc, nous avons des projets dans le domaine du désenclavement, des projets d'addiction à l'eau potable, des projets d'électrification de ces zones-là et des projets également dans le domaine des télécommunications pour permettre à ces populations voilà, également de pouvoir sortir de l'ombre.
Monsieur Sibidibé, je vous prie de m'excuser, mais vous savez, c'est le même problème qui se pose pour le volet militaire où il y a eu des annonces d'argent pour acheter du matériel, mais le G5 Sahel souffre toujours de l'absence de cet appui annoncé et vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut y croire, il faut croire que les partenaires qui font des annonces vont effectivement passer à l'acte pour que les projets que vous citez puissent devenir des choses concrètes.
Très concrètement, dans ces annonces qui ont été faites actuellement, vous avez 266 millions d'euros qui sont mobilisables sur des projets qui sont déjà en cours d'exécution dans les États. Mais l'autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est aussi les procédures. Vous conviendrez avec moi également qu'entre le moment où il faut convenir que voilà, l'argent est disponible et le moment qu'il faut démarrer le projet sur le terrain, il y a le temps encore qu'il faut prendre en compte, notamment pour pouvoir conclure ces accords de financement. Mais l'autre aspect, c'est l'aspect sécuritaire, parce que les investisseurs, les entreprises ne vont pas aller intervenir dans ces zones si, en fait, la situation sécuritaire n'est pas contrôlée. Et c'est pour cela que, en fait, nous sommes en train justement de rendre opérationnelle la force conjointe qui va intervenir dans ces zones frontalières et qui va venir en appui aux forces armées qui sont dans ces zones-là pour permettre à ce qu'on puisse mettre en œuvre ces projets de développement.
Une réaction rapidement, Oswald Padonou, est-ce que vous êtes convaincu de tout ce que M. Mikaïlou Sidibé nous explique?
C'est important pour les États donc, de rester dans le cadre pour les armées, particulièrement dans le cadre de l'État de droit, et aussi pour les partenaires qui financent les projets de développement, de rester dans le cadre de leur procédure, mais en ayant bien entendu à l'esprit qu'il y a une solution, il y a un effet qui est recherché. Et l'effet qui est recherché doit être obtenu dans un temps donné. Et ça, il faut l'intégrer. Ça me paraît pas être suffisamment fait. La question de la gestion du temps, comment obtenir un résultat assez rapidement pour pouvoir prendre le contrôle de la situation qui aujourd'hui semble complètement échapper aux États.
Alors, on sait que certains de ces États concernés essayent de diversifier leurs sources de rentrée d'argent, développer le tourisme, par exemple, et lorsqu'il y a des attaques djihadistes du genre de l'enlèvement qui s'est produit dans le nord du Bénin, est-ce que, Mikaïlou Sidibé, vous pensez que c'est légitime qu'il y ait des craintes, surtout que certains pays font des annonces à savoir que cette zone est classée zone non fréquentable?
C'est ça qui est déplorable pour nous. En fait, c'est légitime de la part de ces chancelleries, mais il faut davantage accompagner les États à sécuriser ces zones-là. Au lieu, en fait, de déconseiller plutôt, en fait, les ressortissants d'y être. Mais je pense que pour chacun de ces pays, le tourisme constitue quand même un facteur très, très important à prendre en compte dans les budgets des États. Et l'objectif est également de sécuriser ces zones frontalières. Parce que vous savez, pendant longtemps, les zones entre les États ont été abandonnées plus ou moins par les projets de développement. Et c'est à partir de ces zones-là que ces groupes se sont infiltrés. Et donc, le G5, en développant la stratégie de forces conjointes opérant dans les zones transfrontalières, permet de libérer, on va dire, les forces des armées de ces pays de pouvoir intervenir dans les zones, surtout dans les sites touristiques, pour permettre, en fait, à cette industrie de se développer.
Et quelle est votre position, Ibrahim Yacouba, sur cette question, quand certains pays donnent des consignes et rendent cette zone de l'Afrique de l'Ouest, surtout les parties nord des pays côtiers, rendent ces zones non fréquentables aux touristes, alors que ces pays sont en quête de ressources pour financer peut-être des projets de développement?
Moi, je voudrais qu'on dise les enjeux de la situation. J'ai écouté M. Sidibé qui parlait de la question du financement du développement. La question du financement du développement est une question cruciale. Mais je pense que les études l'ont relevé, les pratiques diplomatiques que nous avons eues ou que nous avons l'ont relevé. Il y a souvent un grand décalage entre les montants des annonces et les déplacements pour financer des projets. Donc nous devons peut-être toujours mettre en avant nos projets prioritaires et nos capacités propres à les développer toutes les fois que nous considérons que ces projets sont cruciaux pour le développement ou pour la sécurité ou pour la cohésion des populations. Il faut aussi qu'on dise comment est la situation parce que tout à l'heure, le professeur avait évoqué à juste titre la question de l'amunissement, la plus grande opération des Nations Unies avec probablement l'un des plus gros budgets, mais aussi la plus opération qui a le plus grand nombre de victimes et qui n'a pas en tout cas autant d'impact que souhaité sur le terrain. Il y a nos vrais ennemis, c'est quoi? C'est quand même des positions politiques qu'on a prises et qui ont un impact certain sur la sécurité du Mali, sur la situation de l'État malien et sur la situation du Sahel. Lorsqu'il n'est pas quasiment, on a fait le choix politique de ne pas permettre au Mali de recouvrer intégralement la totalité de son territoire. Lorsque nos partenaires et nous-mêmes, souvent par nos comportements, on a accepté de travailler avec des groupes armés qu'on considère plus ou moins normaux, nous faisons des choix politiques qui peuvent être assez négatifs sur la durée.
Vous n'avez pas cité de pays, mais ce reproche, on l'entend souvent faire à l'adresse de la France qui a stoppé, certes, l'avancée des djihadistes sous le régime François Hollande, mais donc on a fait de Kidal une zone d'exception. Et donc, vous êtes clairement en train d'aller dans ce même sens, hein, monsieur le ministre Yacouba.
On ne connaît pas d'exemple des États qui ont pu gérer leur sécurité en n'ayant pas tout le contrôle de la totalité du territoire et en n'ayant pas seul le monopole exclusif de la violence légitime. Il faut qu'il y ait des États forts, il faut qu'il y ait des États légitimes. Donc nos choix politiques et les choix de nos partenaires, et même qui sont mis en œuvre, ne sont pas toujours des choix judicieux. Troisième élément aussi que nous n'abordons pas bien et que nous devons aborder honnêtement et frontalement, c'est la question du narcotrafic. Nous savons tous que la plupart des groupes armés, là, ils sont là, ils résistent, ils prospèrent, parce qu'il y a des liens très clairs établis entre eux et le narcotrafic. Le narcotrafic nourrit le terrorisme et vice-versa. Ils sont en train de s'auto-entretenir mutuellement. Voilà. Cette question de narcotrafic et le combat que nous devons avoir face au narcotrafic, nous ne faisons même pas le minimum syndical qu'il faut pour l'aborder.
J'aimerais avoir la réaction de Oswald Padonou. Est-ce que vous croyez que ces puissances sont engagées pour leurs propres préoccupations?
Au moins en partie, ça c'est de toute évidence, engagé au moins pour leurs propres préoccupations. Il y a de multiples agendas dans la région, chaque acteur bien entendu son agenda, mais il y a un minimum à mon avis sur lequel il faut absolument avoir un consensus et sur lequel tous les acteurs devraient s'engager avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'honnêteté, parce que c'est important. La stabilité aujourd'hui, dans le Sahel, la stabilité en Afrique, c'est un gage de stabilité pour l'Europe aussi. Et aujourd'hui, ce n'est pas dans les annonces que cette sincérité peut se manifester. Évidemment, ce n'est pas pour oublier les efforts remarquables qui sont faits notamment par l'armée française qui perd beaucoup de soldats donc dans cette région-là. Mais je pense qu'on n'a pas encore tout essayé. Je le répète, il y a encore des solutions qu'il faut essayer et cela passe, à mon avis, par le renforcement de l'État.
Voilà, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Un dernier tour de table, Mikaïlou Sidibé. Est-ce que, avec tout ce qui est dit, les promesses qui sont faites sans actes concrets, en tout cas dans l'immédiat, et les choix que font certains partenaires de la région qui ne correspondent pas réellement aux choix des États, est-ce que tout cela vous permet d'espérer quand même que dans les 2-3 années à venir, il y aurait une amélioration de la situation sécuritaire de sorte à favoriser l'éclosion des actions de développement?
Ah oui, enfin, je suis obligé d'être optimiste parce qu'on n'a pas le choix. Et nous demandons vraiment aux partenaires de nous aider parce que l'idée de colorier les zones et de demander aux ressortissants de ne pas se rendre, ce n'est pas vraiment la solution parce que, après tout, ces groupes vont en fait utiliser ces terrains comme des zones d'aguerrissement pour pouvoir en fait se projeter ailleurs. Mmh. Donc vraiment, nous sollicitons l'appui vraiment de la communauté internationale pour venir à bout de ce phénomène au niveau de cet espace.
Voilà, vous lancez ce message, mais les cartes sont déjà coloriées, malheureusement. Ibrahim Yacouba, alors, est-ce que vous êtes aussi dans l'optimisme? Est-ce que vous pensez que ces projets dont parle M. Mikaïlou Sidibé auront un impact concret pour que le sort des populations puisse s'améliorer?
Oui, c'est des projets nécessaires, et il a bien dit, c'est souvent des projets d'accès aux services minimums de base. Hein. C'est comme avoir accès à l'eau, préserver une école, c'est vraiment des projets non seulement nécessaires mais importants. Et il a bien évoqué les difficultés, puisque vous savez qu'aujourd'hui, pour faire un point d'eau dans certaines zones, il nous faut déployer des unités ou des gros éléments des forces de défense et de sécurité pour protéger les personnes qui peuvent le faire. Donc il y a des enjeux de vie que nous ne sommes pas capables de mener sereinement, ou en tout cas dans des conditions à peu près normales. C'est pour cela que j'avais dit qu'il nous faut détruire les causes de la dégradation de la situation pour nous permettre de refonctionner normalement.
Merci Ibrahim Yacouba. Alors Oswald Padonou, vous bouclez donc cette émission. Quelle est votre position par rapport à ces projets de développement qui sont perçus comme devant permettre aux États de marquer leur présence?
Alors ce que je voudrais dire, c'est un regret sincère que j'ai. La situation est grave d'un point de vue sécuritaire, mais la situation est grave aussi d'un point de vue du regard du politique sur cette situation-là. Parce qu'il y a encore beaucoup de corruption et l'enjeu de la bonne gouvernance semble être occulté par cet impératif sécuritaire-là. Alors que le ministre l'a dit aujourd'hui, la question, l'enjeu, c'est de trouver en nous les solutions. Et cette solution-là passe par une prise de conscience de la gravité de la situation et passe par des réformes qui peuvent nous permettre d'avoir vraiment une gouvernance meilleure qui puisse permettre de répondre aux aspirations de la population. La deuxième chose que je voudrais dire rapidement pour clore mon propos, je pense que ce qu'il est important d'obtenir et qui permet d'avoir, disons, une situation qui soit bonne sur la durée, c'est de privilégier le fait faire. C'est faire en sorte que les acteurs les plus directement concernés par la situation, notamment les États, les fonctionnaires de l'État, soient aux avant-postes, puissent agir concrètement pour le bien de la population. Je pense que ce sont également des aspects qui me semblent tout à fait importants à prendre en compte.
Merci Oswald Padonou. Vous êtes chargé de programme gouvernance et sécurité en Afrique subsaharienne pour la Fondation Konrad Adenauer. Ibrahim Yacouba, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Niger. Et Mikaïlo Sidibé, expert infrastructure du G5 Sahel. Merci à tous les trois d'avoir partagé vos points de vue. Le débat n'est pas bouclé, nous y revenons. Et vous nous rejoignez aussi, chers auditeurs, la semaine prochaine pour un autre thème touchant au développement de l'Afrique. Fréjus Kenom à l'animation de cette émission.